Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Journal des sports, on revient sur les hommages à Raymond Poulidor qui a disparu hier à l'âge de 83 ans. Son portrait avec Martin Guèze pour Radio France Internationale.
Un gros gâteau partagé, un petit air d'accordéon, en compagnie des deux Bernard, Ino et Thévenet, et de son petit-fils Mathieu Van Der Poel, cycliste professionnel néerlandais. En 2016, pour ses 80 ans, Raymond Poulidor était le plus heureux des hommes, à l'occasion du passage du Tour dans sa ville de Saint-Léonard-de-Noblat. Car le Tour de France, c'était un petit peu lui. Le petit homme, au visage tout rond et aux yeux en amande, était reconnu et aimé de tous sur les routes hexagonales. Une cote de sympathie intacte après 57 grandes boucles, comme il aimait à le rappeler, dont 14 comme coureur, puis ensuite comme suiveur avisé. Et tant pis s'il n'a jamais remporté l'épreuve, souvent présenté comme l'éternel second, Poupou, comme le surnomme affectueusement le public, aura connu la gloire sans le maillot jaune. 8 fois sur le podium, il se forge une réputation de perdant magnifique, notamment lors du Tour 64, et son bras de fer perdu contre son ennemi de toujours, Jacques Anquetil. 14 grandes boucles donc, la dernière à 40 ans. Une longévité incroyable pour celui qui n'aura jamais vu la vie en jaune, mais une vie pas dénuée de succès, près de 200 victoires en carrière, certaines prestigieuses comme Paris-Nice ou le Tour d'Espagne, et une bonne humeur permanente pour celui qui n'aura jamais quitté la Haute-Vienne, sa terre natale dans le centre de la France. De son enfance paysanne, à s'entraîner en cachette de ses parents qui jugeaient le cyclisme trop dangereux, à ses derniers coups de pédale, avant de définitivement ranger la bicyclette au garage.
Et maintenant on écoute l'hommage de Eddy Merckx sur European Broadcasting Union.
Une grande tristesse parce que Raymond Poulidor c'est d'abord un grand ami, c'est un grand champion, c'est un grand monsieur. C'est pas parce qu'il n'a pas gagné le Tour de France que c'est pas un grand champion. Je pense qu'après Anquetil, Hino, peut-être Louison Bourbet, c'est peut-être un des plus grands champions français que j'ai jamais connu.
Quelques autres réactions, dont Vincent Lavenu, directeur de l'équipe AG2R, la mondiale.
C'était un grand coureur, un mec très simple, puis c'est tout quoi. Bon, c'est pas ma génération, moi je suis né à... Mais bon, j'ai connu, hein, avec Anquetil, tout ça, quand ils ont monté le Puy-de-Dôme, tout ça, c'était... Non, c'était un mec bien. Il a gagné, je crois, 180 et quelques courses, hein, quand même. Bon, il n'y a que le Tour de France qu'il n'a pas gagné malheureusement, mais il a gagné la Vuelta, le Tour d'Italie, tout ça. Toutes les grandes classiques pratiquement. Non, c'est un grand coureur. J'espère qu'un jour on en aura un autre comme ça.
On est tous très touchés. Raymond, c'est une légende du cyclisme. Il a fait l'histoire. Même des gamins d'aujourd'hui connaissent le nom Poupou. Donc c'est vraiment une légende du vélo qui s'en va. On était tous très proches de lui finalement parce qu'on l'a côtoyé. À tout moment, il était toujours présent, il était sur les grandes courses, les petites courses, c'est un véritable amoureux du vélo, donc effectivement, tout le monde est très touché de sa disparition.
Et puis en mode tennis, les Masters de Londres et le comeback de Rafael Nadal contre Daniil Medvedev, le russe, hier, en 3 manches, 6-7, 6-3 et 7-6. Et aussi la victoire de Stefanos Tsitsipas, le grec, contre Alexander Zverev, l'allemand, en 2 manches, 6-3 et 6-2. Et puis en foot, début des éliminatoires de la CAN 2021 avec des matchs hier. Thomas Moulin est avec Sylvie Berruet pour Radio France Internationale.
Les vice-champions d'Afrique sont imposés 2-0 face au Congo. Tout s'est joué peu avant la demi-heure de jeu avec l'ouverture du score de Sidi Sarr. Seulement 2 minutes plus tard, Sadio Mané, finalement titulaire, a délivré une passe décisive pour Habib Diallo. Premier but en sélection pour le Messin, préféré au Rennais Mbaye Niang à la pointe de l'attaque sénégalaise. En deuxième mi-temps, les partenaires de Kalidou Koulibaly, capitaine ce soir, se sont contentés de gérer leur avance face à des Diables Rouges, guère plus inspirés mais mieux organisés. Le Sénégal, deuxième du groupe I, juste derrière la Guinée-Bissau, large vainqueur 3-0 des Swatini.
Et autre équipe très attendue, le Burkina Faso, mais voilà, les étalons ont une nouvelle fois déçu.
Les principaux absents de la dernière CAN en Égypte, ils n'ont pas réussi à se défaire de l'Ouganda. Score final, nul et vierge à Ouagadougou. Les étalons ont tiré sur le poteau dès la 5e minute. Alain Traoré a eu aussi une très belle opportunité en fin de match, mais les Cranes n'ont rien lâché, bien regroupés en défense devant leur talentueux gardien Denis Onyango. Au match nul entre Burkinabé et Ougandais qui profitent au Malawi en tête du groupe B après sa victoire 1-0 sur le Soudan du Sud.
Et un peu plus tôt dans la journée, le Nigeria a assumé son statut de favori face au Bénin.
Troisième de la CAN l'été dernier, les Super Eagles ont emporté 2-1 chez eux à Ouyo grâce à deux joueurs qui évoluent dans deux clubs de Ligue 1. Le Lillois Victor Osimhen mène sur pénalty juste avant la mi-temps et le Bordelais Samuel Kalou peu après l'heure de jeu. Ils ont répondu à l'ouverture du score précoce de Stéphane Sessignon. Avec ce court mais précieux succès, le Nigeria prend déjà la tête du groupe E, puisque dans l'autre rencontre de ce groupe, la Sierra Leone a été rejointe au bout du temps additionnel par le Lesotho. Un partout, score final.
Alors si le Nigeria assure, le Cameroun, lui, a calé d'entrée.
Déjà qualifié en tant que pays organisateur de cette CAN 2021, les Lions Indomptables ont été tenus en échec à Yaoundé par le Cap-Vert 0-0. Le Portugais Tony Conceição espérait sans doute mieux pour ses premiers pas sur le banc camerounais.
Et début réussi en revanche pour l'Ivoirien François Zaoui sur le banc de la Centrafrique.
Et ce, malgré l'absence de sa star Geoffrey Kondogbia, ses fauves n'ont fait qu'une bouchée des hirondelles du Burundi, battues 2-0 à Bangui, début de Vianney Mabidé et de Louis Mafuta. La Centrafrique à la recherche de sa première qualification pour la CAN, tout comme la Gambie, surprenante vainqueur en Angola 3-1, grâce notamment à un doublé de son attaquant Hassan Cissé. Ça s'est beaucoup moins bien passé pour le Tchad, autre candidat à une première participation. Les hommes d'Emmanuel Tréguat sont inclinés en fin de match en Namibie 2-1, malgré un but d'Ezekiel Doissel pour les Sao. Dernier résultat de la soirée, le carton du Soudan qui l'a emporté 4-0 face à Sao Tomé et Principe, très vite réduit à 10 après l'expulsion de son gardien dès la 22e minute.
En foot féminin, on connaît l'affiche de la finale du tournoi qualificatif pour les JO de Tokyo. La Zambie a été rejointe par le Cameroun qui a battu la Côte d'Ivoire 2-1. À nouveau, Thomas Moulin pour RFI.
Après le match nul et vierge de l'aller à Abidjan, le but de la victoire, un pénalty d'Ajar Nchout à 5 minutes de la fin pour les Camerounaises. Un fait de jeu qui a provoqué au coup de sifflet final la colère de la sélectionneuse ivoirienne Clémentine Touré au micro de notre correspondant Joël Wadem.
Je voudrais d'abord féliciter mes joueuses pour le jeu qu'elles ont produit. Nous avons été les meilleures. Ce pénalty imaginable que l'arbitre nous accorde fait mal. Ça fait mal parce que la Côte d'Ivoire était au-dessus du Cameroun. Nous avons joué, je considère ce match 1-1. Le pénalty qu'on nous accorde, franchement, je voudrais que vous revoyiez la vidéo, mais je dis merci à Dieu. Merci.
Voilà, fin de parcours donc pour les éléphantes tombeuses au tour précédente des Nigérianes, championnes d'Afrique en titre. Cameroun, Zambie, finale de ce tournoi de qualification olympique en janvier prochain. Et seul le vainqueur disputera les Jeux de Tokyo 2020.
Enfin, le français Tony Parker, célébré par les San Antonio Spurs. Il a remporté 4 titres NBA avec eux. Il est entré au Panthéon des Spurs au cours d'une cérémonie mardi soir. Plus personne ne portera le numéro 9 du français chez les Spurs. Reportage de Michael Dacosta qui est avec Eric Chorin pour Radio France Internationale.
Il y a plusieurs chiffres qu'on peut donner qui marquent vraiment la carrière de Tony Parker. Il a gagné 4 fois le titre de champion. Il a été une fois MVP, c'est-à-dire meilleur joueur des finales NBA. En 2007, c'était le premier joueur européen à y arriver, avant Dirk Nowitzki qui a réussi aussi ce fait d'armes en 2011. C'est le 4e meilleur scoreur de l'histoire de la franchise avec 18 943 points. Il est environ dans les 40 plus grands scoreurs de l'histoire de la NBA avec ce total-là. C'est le plus jeune joueur de l'histoire à avoir été titularisé dans cette franchise à l'âge de 19 ans. Sans oublier les moments magiques avec le trio Manu Ginobili et Tim Duncan, l'Argentin et d'autres joueurs natifs des îles Vierges américaines, chapeauté par le coach mythique Greg Popovich. Et bien sûr, sans oublier, il y a quelques années en arrière, une rue Tony Parker, que le même maire Ron Nirenberg, qui a décidé de ce Tony Parker Day, avait donné le nom d'une rue de San Antonio au nom du célèbre basketteur français.
Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.